des choses qu'on a déjà vues. Notamment, je me souviens, Antoine n'est pas là, il avait parlé du wokisme.
Hein, on en a parlé déjà plusieurs fois. Moi aussi, j'en ai parlé.
Donc, je vais passer assez vite, c'est le grand 3. Alors, par contre, il y a quelque chose que Jacques Toubon, dans ce grand 3, a mis bien en évidence. C'est une méthode qu'il a utilisée pour essayer de défendre... le droit, entre guillemets, dans des situations complexes. C'est la notion d'intersectionnalité. C'est un concept alors, qui a été inventé par une juriste américaine, Kimberly Crenshaw. Voilà, je demande aux juristes s'ils connaissaient. et qu'un Français a appelé plutôt nœud d'enchevêtrement.
Bon. Sac de nœuds.
Voilà, sac de nœuds. Alors, ça consiste à prendre simultanément des facteurs de domination. Alors, ça peut être le sexe, le genre, la classe, etc. Et forcément, c'est décrié par les féministes, c'est décrié par les essentialistes. Mais pourtant, c'est assez efficace dans le millefeuille des discriminations. Et parce qu'il s'est rendu compte dans son expérience de défenseur de droit qu'il y a certaines populations qui cumulent les discriminations. En particulier, il prend l'exemple d'une femme noire, monoparentale, avec enfant, pauvre, dans le 9-3, etc., etc., par rapport à un homme blanc dans le 15e arrondissement, voilà, etc.
Et encore
etc.
mieux, la chaleur sur ce...
C'est pas si bien que ça.
Voilà. Et donc, il s'est servi de cet aspect de l'intersectionnalité, donc j'ai trouvé ça relativement intéressant. J'en avais quelques notions, mais là, bon, il développe un petit peu là-dessus. Alors ensuite, il fait tout un petit laïus sur le wokisme. Alors je vais vous en épargner la chose. Il dit simplement que ce n'est pas tant la vérité qui compte, mais celui qui l'a dit. Il cite MeToo, il parle de la présomption d'innocence qui a été balayée. Et il y a quand même certains hommes, messieurs, je reconnais, vous avez été quand même victimes.
Pas tous, c'est maintenant. Pas tous. Les hommes.
Voilà.
Ils dénoncent aussi.
Mais pour Jacques Toubon, quand il dit que quand la lutte des discriminations devient une traque, c'est le mot qu'il utilise, elle a un effet inverse. Et il prend l'exemple, effectivement, vous le connaissez, est-ce qu'on ne peut pas jouer Othello si on n'est pas noir? Est-ce qu'on ne peut pas interpréter ou étudier Rimbaud si on n'est pas homosexuel, etc. etc.
Blanche-Neige noire.
Voilà. Alors, il met aussi l'accent sur la nécessité de la mémoire et de l'histoire. Il dit que ce n'est pas en déboulonnant des statues qu'on va résoudre les choses. Pour lui, l'histoire est indispensable au débat et au progrès de la société. Effacer toute marque du passé douloureux, c'est supprimer les objets possibles du débat. Il insiste forcément là-dessus, beaucoup là-dessus. Et pour lui, il faut élaborer un récit qui donne à voir et qui rassemble pour conjurer à la fois la honte des victimes et la culpabilité des oppresseurs. Mais dans tous les cas, il faut réfléchir pourquoi on réécrit cette histoire, dans quel but, pour qui, pourquoi. Je pense que certains pays, en ce moment, ont réécrit l'histoire dans une version qui les arrangeait fondamentalement. Alors, il met le doigt aussi sur l'islam. Pour lesquels, depuis 2001, forcément, pour les musulmans, c'est un peu plus compliqué, les musulmans pacifistes, j'entends. Et le débat s'est radicalisé, avec des positions parfois extrémistes, ou extrêmes plutôt, dans les partis politiques. Et ici, pour lui, il y a mis en cause une irrationalité au profit de fantasmes, de peurs et d'opinions qui interdisent tout diagnostic. Alors ensuite, il passe au grand 4 qui est pacifiant l'immigration. Là aussi, je vais aller assez vite puisque c'est un débat qu'on a déjà eu lieu et va encore avoir lieu prochainement. Donc, je vous ai parlé, il parle de la cité nationale de l'histoire et de l'immigration qui est à la Porte Dorée, qui a été ouverte en juin 2023. Il a présidé le conseil d'orientation, c'était initié par Jacques Chirac en 2004. Moi, je rappelle, donc je vous redis que c'est, si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller visiter, c'est très intéressant. C'est un musée qui est moderne, qui est bien fait, qui n'est pas trop surchargé d'éléments. Et on va. Moi, j'y ai passé la journée. Je veux dire, j'arrivais à 10h le matin, je suis partie à 4h de l'après-midi, et je ne me suis jamais ennuyée. Il y a toutes sortes d'expositions temporaires, donc voilà. Alors, il signale que dans ce chantier, il y avait des sans-papiers qui participaient à l'élaboration du bâtiment et qu'ils ont demandé leur régularisation, ils l'ont obtenue. D'ailleurs, il n'y a pas que, je crois qu'il y a des gens sur les. Actuellement, pour les Jeux Olympiques, sont dans le même corps.
Oui, exactement. Là, on a besoin d'eux.
On a besoin d'eux, là. Alors, il met aussi de l'accent sur le scandale des camps de migrants, les conditions de vie indignes, puis on parlait à l'instant, Liliane, la destruction des tentes, des sans-abri, sans leur donner de solution pour aller ailleurs, etc. Pour lui, la situation s'est dégradée depuis le Brexit. Et Jacques Toubon constate que, en fait, le problème vient que les autorités refusent de prendre en compte, ou refusent pas, c'est son point de vue, de prendre en compte la complexité du problème, au nom d'éléments d'idées très courtes, identitaires, sécuritaires, sans chercher à intégrer les gens qui sont intégrables. Voilà. Et même une commission d'enquête de l'Assemblée nationale en 2021, il y a donc 3 ans, qui dénonce à la fois la propagande hostile à l'immigration et les insuffisances des politiques publiques d'accueil et d'intégration. Alors, les préfectures, lui, dit qu'il semble qu'il y ait des. Qu'il semble oublier qu'il y ait des droits. Je vais faire justice quand même au personnel des préfectures qui sont en sous-effectif aux services étrangers et qui peuvent quand même pas tout faire. Et donc, je pense pas que ce soit une volonté de la préfecture, ça c'est un avis personnel, de vouloir bafouer les droits. C'est plutôt un manque de personnel. Tout le monde, il insiste aussi en disant qu'il est trop facile d'imputer les difficultés, les drames et la ghettoisation de certains quartiers aux étrangers. C'est plus leurs conditions de vie. Le fait qu'ils n'ont pas les moyens de subsistance suffisants qui fait qu'ils sont parfois dans des habitats indignes et des conditions elles sont. Donc, pour lui, la politique sécuritaire est inefficace à elle seule. Et il y a même un ministre délégué de Charles Pasqua, qui n'était pas quelqu'un de très favorable à l'immigration, qui avouait en 2003 on sait bien qu'une frontière. Ça ne peut pas être fermé. Alors, c'est pareil, je vous l'avais dit déjà l'an passé, mais Jacques Toubon le dit dans son bouquin, enfin, la parole de Jacques Toubon est plus importante que la mienne, ça c'est clair. C'est une terre d'immigration. On a 25% d'étrangers, de Français qui ont un parent étranger ou un grand-parent étranger. Voilà. Et donc, la France est construite en intégrant des immigrés. Alors, il fait toute une partie dans son bouquin pour retracer les étapes de l'intégration. Donc, c'est pareil, comme j'en ai pas parlé l'an passé, je ne vais pas revenir dessus. C'est pareil, les étrangers représentent 10 à 12 % des étrangers en France. Alors, les chiffres restent relativement stables. Moi, je dirais quand même une légère évolution depuis 1 ou 2 ans. Ils étaient stables jusqu'au Covid, maintenant ils ont tendance à évoluer un petit peu. Il y a à peu près 2,5% de la population mondiale qui est en déplacement permanent. Les flux migratoires, ça c'est reconnu, se font majoritairement d'un pays vers les pays limitrophes. Et il y a seulement un tiers de la population des pays du Sud qui va vers les pays du Nord. Ensuite, il développe dans son livre les statistiques concernant le nombre d'étrangers et il réinsiste sur le fait que les étrangers, c'est des données de l'OCDE hein, qui disent que les étrangers, les immigrés, versent davantage d'impôts et de cotisations sociales qu'ils reçoivent en prestations. Et ça, c'est ma petite parenthèse. Je disais que je connais beaucoup de gens sans papier qui payent des impôts mais qui ne bénéficient d'aucune protection sociale, parce qu'ils ont sans papier. Voilà. Ensuite, il parle de la menace du grand remplacement. Vous savez qu'il y a un certain monsieur Camus qui met en avant ce genre de choses. Alors, ça, il dit que apparemment, les femmes immigrées, quand elles sont intégrées, ne font pas plus d'enfants que les Françaises. Pour lui, effectivement, il y a une évolution qui est importante, mais pour lui, ce n'est pas le grand déplacement.
Grand remplacement.
On y arrive.
Le grand remplacement. Merci. Alors, pour lui, il prône une nouvelle politique migratoire. Il y avait le Conseil économique et social qui prônait une immigration qualifiée. Et pour lui, la France a la palme des obstacles administratifs. Pour les étrangers. On va parler aussi de tous les services, la numérisation, etc. C'est assez
extraordinaire.
Il faut savoir que cette palme administrative, là, ça représente 41% des contentieux administratifs. Hein. Voilà. Alors, pour lui, il affirme deux choses. Entrer en France n'est pas un délit. Le droit international autorise quiconque à quitter librement le pays où il vit. S'installer en France ne doit pas relever d'emblée de la justice, d'abord d'action sociale, économique, culturelle, des pouvoirs, quelles que soient les passions et les peurs. Alors ça, je suis allée assez vite parce que c'est des choses qu'on avait déjà vues précédemment. Et on arrive au grand 5, son dernier chapitre avant l'épilogue, qui s'appelle « Vers l'interdépendance ». Alors, il met en évidence dans cette interdépendance le déclin de l'Occident. Il y a des géographes, il y a des historiens, il y a des économistes qui sont tous d'accord avec lui pour dire qu'effectivement, l'Occident est malmené. Le monde est en train de pivoter vers l'Asie, c'est même le titre de certains bouquins, et qui repose sur des valeurs qui ne sont plus les nôtres. Il cite la Russie qui nous provoque. Et partout, s'expriment des résistances à l'occidentalisation. On verra en Afrique la montée des gens pro-Poutine au détriment de la France. Ça, c'est ma petite remarque. Comment pouvons-nous faire valoir que les droits humains sont universels et pas seulement occidentaux? Petite question. Alors, ce que prône Jacques Toubon, il est plein. Voilà. Le non-libéralisme. Alors, en 2019, le Conseil des droits de l'homme a déclaré que le relativisme culturel va contre l'universalisme. Seul le droit est un recours relativiste. Donc, il prône de travailler sur l'idée d'interdépendance qui... Alors ça, j'ai appris dans son bouquin qui avait déjà été mis en avant en 92 au sommet de Rio. En particulier face au problème réchauffement climatique. Alors, pour lui, cette interdépendance compte trois principes. Petit 1, préserver les différences. Petit 2, promouvoir les solidarités en s'appuyant sur l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de l'UNESCO de 2001. Et en réfléchissant, on ne dit pas comment, sur une méthode permettant la compatibilité de la diversité avec l'universalité. Et aller vers une gouvernance qui tienne non seulement compte des États, mais des acteurs non gouvernementaux, comme les ONG, comme les communautés scientifiques, les syndicats, etc. Un autre monsieur, vous connaissez certainement, Bertrand Badi, prônait beaucoup ce genre de choses. Alors, pour lui, ce n'est pas une utopie, hein, cette charte d'interdépendance, mais une urgence, condition d'une mondialisation apaisée. Je vous laisse méditer. Alors, il termine par il appelle pas ça une conclusion, un épilogue plutôt. Alors, pour lui, ce ne sont pas seulement les années 1930 qui hantent nos débats actuels, mais aussi les affrontements politiques de la fin du 19e siècle, comme avec l'affaire Dreyfus. Je vous rappelle, les anti-Dreyfusards se considéraient comme les seuls vrais Français, et leur slogan était « La France d'abord ». De nos jours, il existe une pensée rationnelle qui soutient le caractère fondamental de l'État de droit, de l'idée européenne, face à une pensée repliée sur elle-même, qui fantasme une France qui est passée, qui affirme que l'enfer, c'est les autres, et qui ne craint ni la violence, et qui la revendique. Et il conclut en disant « Nous avons besoin de liberté et de raison. Ne négligeons pas la fraternité. L'égalité et la liberté n'atteignent pas l'impératif moral voilà, sans la fraternité. » Voilà. Voilà.